Bonsoir à tous. Merci mon cher Olivier pour ta présence ici ce soir. Ça fait 3 ans qu'on a dû faire dans une autre institution de la ville un entretien autour de ton livre à l'époque qui était un livre sur Proust qui s'intitulait Les Chambres de Proust.
Sans article. Chambres de Proust.
Chambres de Proust.
Tu as oublié
ma
déjà.
Ma mémoire déjà.
Tu as oublié déjà.
A flanché, oui. C'est quoi ce passage de Proust à Caravage, nonobstant le fait que tu travailles sur Caravage depuis très longtemps, je crois même depuis, tu me l'as rappelé tout à l'heure, donc je peux le répéter sans erreur, depuis 1993, où, tombant en arrêt devant un tableau du Caravage, tu t'es dit, d'une certaine manière, comme Claudel au pied de sa colonne, il y a eu une révélation.
Exactement, parce que quand tu aimes les mots que tu lis, les mots que tu entends, parfois les mots que tu dis et que tu écris en effet sur des écrivains comme Proust, où j'étais aussi venu dans les années 2000 ici avec mon camarade Rabaté que tu connais aussi pour un livre sur Sartre. Quand on écrit sur les mots, on est finalement dans un rapport de même nature, langue à langue, citation, auteur à écrivain. Et le passage de Proust à Caravage, c'est le passage de la littérature. Et qu'est-ce que les mots peuvent face à une peinture? Bon, la relation des mots et des images est un sujet qui occupe depuis la Renaissance. Elle est toujours difficile. Mais en plus, face à un peintre Caravage, dont chacun peut avoir le sentiment, quand il s'arrête devant un de ses tableaux, que ce tableau nous arrête, nous réduit à quia, veut nous réduire au silence et veut nous faire perdre la langue. Et donc, je dirais que le passage de Proust à Caravage, c'est le passage de l'amour de la langue, de l'amour des mots, de la durée, de la chronologie, du lent déploiement de la langue proustienne, à, un peu comme Madame vient de le faire, un bruit brutal qui interrompt, rompt, saisit, arrête. Et que peuvent les mots? Que peuvent les mots face à la sidération? C'est-à-dire que peut la langue face à qui veut lui faire perdre la langue? Les images par nature, mais Caravage au sein de la peinture, plus que tout autre, pour des raisons que j'essaie sinon totalement de dire dans le livre, mais en tout cas de mettre en scène et de restituer à travers sa peinture.
Quel était ce tableau qui n'est pas reproduit? On va évidemment venir au livre très vite, mais quel était ce tableau devant lequel tu t'es arrêté et qui a été un peu le début de ce travail qui a donné lieu à un certain nombre de textes, d'un texte dans les temps modernes, notamment au moment de l'anniversaire, de la 400e anniversaire de Caravage. Ensuite, cette émission à France Culture, dont est issu le livre. C'était quoi ce point de départ comme tableau, qui n'est pas reproduit dans ce livre?
Voilà. Finalement, l'origine, c'est ce qu'on ne peut jamais regarder en face. Donc l'origine de mon rapport à Caravage, j'accepterai de t'en dire quelques mots, parce qu'on est dans l'intimité, devant personne. Mais évidemment, sur ces premières fois, on tient à rester le plus discret possible. Mais pour te répondre tout de même, donc cette première fois, ce premier tableau, c'est donc un sacrifice d'Isaac. Donc quand Abraham décide de sacrifier son fils à la demande du Seigneur, il y a deux variantes, enfin deux exemplaires du thème. Hein. Un qui est à Florence, assez violent, où Abraham saisit son fils Isaac par le col, comme on saisirait une bête pour un abattage rituel. Et puis un deuxième tableau qui est aux États-Unis mais qui vient souvent pour des expositions en Europe, et c'est là où je l'avais vu en effet dans une exposition à Rome, où Abraham saisit Isaac par les cheveux. Isaac est accroupi sur une pierre, un rocher, et il semble dans une sorte d'épuisement, d'exhalaison suprême. Et en m'arrêtant devant ce tableau, je m'étais dit que je n'en avais pas fini de toute façon pour comprendre ce qui m'avait fait m'arrêter, mais qu'il y avait comme un épuisement. Et je m'étais dit, est-ce qu'on peut être au bout de soi, se fatiguer de soi, se lasser de soi? J'espère que c'est une réponse que vous ne m'apporterez pas en vous lassant de notre conférence, mais en tout cas, là, c'est un rapport à soi. Est-ce qu'on peut en avoir fini avec soi? Et le début de ma méditation personnelle sur Caravage, dont j'essaie ensuite après de lui donner une forme qu'on peut partager avec autrui, c'était ça. Et j'avais pensé à un moment, on parlera peut-être du titre de ce livre, appeler cet ouvrage « Se défaire de soi ».
Alors on parlera du titre tout à l'heure.
Si très bien, à tes ordres.
Il se trouve que à la page 11 de ton livre, à la fin de l'introduction, tu dis cela, « 400 ans sembleront bien loin ». Donc 400 ans, puisque le texte était écrit quelques années après l'anniversaire, 400 ans sembleront bien loin à tous ceux pour qui l'âge des images s'entend comme le moment précis de leur fabrication. Il est bien possible pourtant, très proustien ça évidemment, que les images et surtout l'âge de celui qui les regarde. Vous savez que Proust disait à propos du lecteur que c'est évidemment le lecteur qui écrit la recherche du temps perdu. Et quel âge a-t-on quand on regarde ? Peut-être toujours le même, celui de cette grande, unique, primitive passion dont parle Baudelaire à propos du culte qu'il leur rendait. Donc la manière dont tu vois Caravage, ce que tu viens de dire, et dont ensuite tu vas parler de chacun des tableaux qui sont présentés dans ce livre, est-ce que tu parles d'un Caravage, une sorte de Caravage dont parlerait un historien de l'art, ou est-ce que c'est le Caravage revu à partir de ton regard aujourd'hui, par exemple après Daesh, par exemple après un certain nombre d'événements qui ont concerné les images? C'est une interrogation qui court tout au long de ce livre. C'est qu'est-ce qu'on regarde, au fond, quand on regarde un tableau. Et une de mes amies récemment m'a fait relire ce texte de Daniel Arras, dont le titre m'échappe tout à coup.
On n'y voit rien.
On n'y voit rien, qui ne cesse d'interroger cette question. Donc avant de rentrer dans le détail, et pour pas qu'il y ait de malentendus sur la manière dont tu abordes cette œuvre-là, est-ce que tu peux essayer de répondre à cette question ?
Je peux essayer de répondre à ta question.
Eh bien, fait.
Donc, moi, je trouve que c'est une expérience que chacun peut faire dans un musée, y compris au musée de Bordeaux, bien que le musée de Bordeaux ne comporte pas de Caravage, mais doit bien y avoir un ou deux caravagesques, même si je dis dans le livre que Caravage n'aurait pas été caravagesque. Enfin, admettons que vous ayez un Caravage au musée de Bordeaux, ce qui est très frappant, je trouve, quand on est dans la salle des peintres du XVIIe siècle, c'est qu'il y a une peinture qui est devenue en quelque sorte lettre morte, qui parle par allégorie, par symbole, de manière très, très, très expressive, et que finalement on n'entend pas, qui semble parler une langue un peu trop apprêtée ou perdue, trop rhétorique, trop académique, comme vous voulez. Et au contraire, quand vous avez un tableau de Caravage, il y a comme une adresse immédiate et violente et brutale, et qui, elle, ne souffre pas forcément de malentendus, même si elle n'est pas toujours facile à entendre. Donc déjà, je dirais que l'expérience première qu'on peut avoir avec Caravage, c'est ça, c'est que ça continue de nous parler, et ces 400 ans, finalement, ne semblent pas si éloignés que cela, sans doute parce que ça renvoie à l'âge qu'on a, effectivement, quand on regarde, quoi qu'on regarde, Daesh, les décapitations. Je serais tenté de dire le fait divers épouvantable, Troadec en Bretagne, qu'on a sous les yeux, si j'ose dire. On en est à nous parler de démembrement de corps. Qui ne frémit pas à l'idée de cette famille découpée en morceaux, démembrée, à l'unité familiale et au sein de cette unité, chacun des corps perdant son unité, qui ne frémit dans l'horreur, en se disant l'horreur absolue, c'est ça, c'est la décapitation, c'est le démembrement, c'est l'explosion en morceaux. Or, Caravage ne cesse de nous mettre sous les yeux, de nous présenter des têtes coupées, des choses interrompues. Le jeu du clair-obscur, c'est aussi une manière de découper l'espace, de le fragmenter, comme si pour Caravage, sans trop dévoiler une partie du mystère et de l'énigme que j'essaie d'approcher dans ce livre, comme si pour Caravage, paradoxalement, le démembrement, le morceau, nous rendait quelque chose dont l'unité, la continuité, la plénitude nous prive. Donc il prend complètement à rebours, et c'est peut-être pour ça qu'il dure. Je trouve qu'il prend à rebours plusieurs aspects de la modernité, donc l'unité du soi, l'unicité, la prétention à être unique, et surtout la fierté d'être soi. Chez Caravage, il y a au contraire, dans l'incarnation, dans le fait d'être soi, une espèce de détresse, de tragique, de choses absolument perdues, qui prend à rebours la prétention contemporaine de l'individualisme. Aujourd'hui, chacun doit devenir lui-même. C'est même l'objectif quasiment des coachs, des massages, de ce que tu veux. Oui, ou c'est L'Oréal, parce que tu le vaux bien. Donc c'est une injonction, un droit, un mérite, et chacun finalement a l'impression que l'authenticité, la valeur suprême, c'est soi. Et Caravage prend ça totalement à rebours en disant « Mais es-tu sûr que ce soit si grand, si beau d'être soi ?»
Alors, il se trouve, et j'aimerais que peut-être que tu dresses un petit peu un portrait de ce qu'est, de qui est Caravage, d'abord, de la période qui est essentielle. Donc, on est Caravage né en 1572, il mourra très jeune à 38 ans en 1610. Il y a simplement trois choses, je pense, et j'aimerais après que tu développes un petit peu ça et développes un peu le contexte dans lequel Caravage va se retrouver à Rome à partir, je crois, de 1592, en gros. C'est que il faut bien imaginer qu'on est quasiment dans une contemporanéité avec au moins trois œuvres majeures de l'histoire de la littérature, notamment. En 1515, je crois, en 1615, pardon, Cervantes publie Le Quichotte. Mm-hmm. En 1581 et 85, Montaigne publie Les Essais. Et on est en plein dans l'écriture, à partir de 1592-1595, des grandes tragédies de Shakespeare. Or, si on prend ces trois auteurs, tous les trois, précisément, mettent en cause cette question de l'unicité du moi, cette question de la perte du sujet. Et on voit chez Caravage quelqu'un qui prend d'emblée dans la peinture cette question. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ces liens qui, évidemment... Alors, est-ce que Caravage connaissait Shakespeare et Cervantes ?
Non.
Non ? Il y a quelque chose dans l'air du temps, peut-être ? Qu'est-ce qui se passe à Rome à cette époque ?
Alors, ce rapprochement, effectivement, que je fais brièvement dans le livre, c'est très long de lire Cervantes, ça peut être très drôle. C'est très long de lire Montaigne, ça peut être très pénible, parce que pour le coup, là, la langue a complètement vieilli et devient pratiquement un repoussoir. Shakespeare en anglais, c'est très difficile. C'est très rapide de regarder un tableau du Caravage. Donc déjà, ce rapport à soi, au soi, à la brutalité, à l'identité, c'est sûr que la peinture a un argument commercial très fort, y compris dans notre modernité, c'est que ça va plus vite. C'est-à-dire... Alors après, c'est plus compliqué de regarder un tableau, c'est pour ça que je crois que les livres sont utiles aussi, c'est qu'un tableau n'a pas d'ordre chronologique, contrairement à une œuvre. Tu lis Shakespeare, une pièce, tu lis Les Essais, tu lis Cervantes, tu es soumis à la chronologie de l'auteur. Tu tournes les pages dans l'ordre qu'a donné l'auteur. Et donc, il est compliqué, long de lire les livres, mais paradoxalement plus facile, parce que les livres ne se laissent lire que dans l'ordre qu'ils ont imposé. Un tableau, tu le regardes dans ton ordre. L'auteur, le peintre, peut un peu essayer de guider ton regard par des manières dont il va organiser son image, mais in fine, tu es maître de deux choses dont tu n'es plus maître dans le livre. C'est l'ordre dans lequel tu regardes un tableau et le temps que tu y passes. Et donc, la peinture est liberté, mais aussi, pour citer un auteur que j'aime bien, angoisse de la liberté. Et donc, surtout par rapport à quelqu'un comme Caravage, qui, et là il résonne en effet avec ses auteurs, prétend te mettre face à un toi brutalement révélé, moi je trouvais intéressant, en effet, d'essayer de faire résonner cette peinture avec un rapport à soi et au sujet. Et comme j'ai complètement oublié ta question, oui, je vais m'arrêter là.
Tu n'y réponds pas du tout.
Voilà. Donc, mais elle était bien
importante. Il ne répond pas du tout à ma question, donc je vais faire comme les
comme je ne suis pas un homme politique...
Non, mais oui, mais je vais faire comme les journalistes, c'est-à-dire je répète ma question. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de Caravage arrivant à Rome, à la fois du contexte...
Ah oui, mais c'est beaucoup plus facile.
Oui, oui, c'est une question toute simple.
D'accord.
Mais qui donnera, je pense qu'il donnera au public un peu un contexte, comme on dit... et qui permettra, comme on disait dans les années, bien longtemps, qui permettra de comprendre d'où tu parles.
D'accord. Non, non, j'avais cru que c'était une question difficile. Pardon.
Ah non, non, non.
Alors bon, en même temps, je ne suis pas un historien de l'art, donc, mais j'ai quand même lu naturellement ce que les historiens de l'art ont produit sur Caravage. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'évoquer la résonance de Caravage sur une sensibilité ordinaire d'un homme d'aujourd'hui, moi. Et par où ça nous prend, par où ça nous saisit, par où ça nous agresse, et qu'est-ce qu'on peut opposer à cette peinture de l'immédiat, du brutal, de l'interruption et de la présentation sans représentation. Après, effectivement, quand tu travailles sur Caravage, tu es un peu obligé de le situer. C'est Max Jacob qui disait « toute beauté est située ». En plus, en ayant écrit un livre sur Sartre, j'aime bien l'idée de la situation. Donc la vérité historique de Caravage, il est formé dans le Nord à des écoles où le clair-obscur est une technique assez connue. Donc on pense que tout le début qu'il va montrer à Rome de 20 à 30 ans, entre 1590 et 1600, ces portraits des jeunes gens... chevelu et bouclé près des fleurs et des fruits, les natures mortes, tout ça on peut considérer que c'est une technique qu'il a apprise dans les ateliers du Nord à Milan, la transparence, les verres, les reflets, et que c'est un virtuose. Alors l'inconvénient d'un virtuose, c'est que finalement il peut n'avoir rien à dire, enfin, il peut magnifiquement exécuter l'œuvre d'un autre, la partition d'un autre, il peut être enivré par la technique, et si la technique ne renvoie à rien au-delà d'elle-même, on a un artisan parfait, on a ou un virtuose. Et donc le danger qui menace Caravage dans ses 10 premières années, surtout qu'il a un succès immédiat auprès d'un public très lettré, de
oui,
cardinaux, marquis...
Pardon, je te coupe, ce n'est pas du tout le peintre maudit qu'on a bien voulu par moment décrire. Il est complètement dans cette société romaine soutenue. On lui passe des commandes et il a tout de suite une réputation forte.
Voilà, ça n'est... c'est tout sauf un peintre, me dit, quand il démarre. C'est immédiatement le favori des milieux les plus lettrés, les plus riches. Il a immédiatement des commandes, il est hébergé, protégé, on lui passe ses lubies. Et même quand il va devenir, deuxième partie de sa vie, clair-obscur, peinture religieuse, assombrie, plus violent, brutal, même là, ça n'est pas du tout le génie maudit que la modernité aimerait à reconnaître depuis que nous associons volontiers malédiction et génie, sans doute pour punir les génies d'être géniaux alors que nous ne le sommes pas, et pour s'autoriser une vie plus calme, finalement. Donc Caravage, par rapport à une certaine opinion cultivée, lettrée, dans la peinture religieuse, on lui reproche un peu la grossièreté de ses procédés. C'est un peu la critique du film d'auteur adressé au film américain. C'est-à-dire que Caravage est quand même plus proche, je ne sais pas, de Batman, Xavier Dolan, que de Rossellini, dans la culture de l'époque. Donc c'est vraiment pas un génie maudit. Les tableaux, quand ils sont refusés pour des problèmes religieux d'iconographie, sont immédiatement rachetés sur le marché de l'art. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui va entrer en résonance déjà avec son époque, immédiatement, brutalement. Ce que j'essaie de montrer, c'est que même la première partie de l'œuvre, qui paraît plus gaie, plus légère de sujets, de thèmes et de traitements, contient déjà, bien évidemment, je pense, au prix d'une continuité que Caravage nie, mais que finalement malgré lui incarne, les thèmes de rapport à l'objet, au visible opposé au regard, l'objet opposé au sujet, la chose contre l'histoire, dont il va, à l'occasion des commandes de peinture religieuse, leur donner une dimension inouïe. Parce qu'en gros, tout Caravage est déjà dans un compotier de nature morte, mais on ne l'y aurait pas trouvé s'il n'avait pas transposé sa vision de la nature morte à Pierre, Paul, Matthieu, Jésus. Donc en gros, on ne se serait pas aperçu du génie qu'il était, violent, brutal, à rebours de ce qu'on souhaite penser, si on ne lui avait pas confié les bijoux de famille, c'est-à-dire l'histoire sainte. C'est-à-dire Caravage, c'est quelqu'un qu'on va chercher parce qu'on pense qu'il est agréable, marrant, qu'il fait des super sympas, qu'il fait des trucs jolis. Et on lui dit, voilà, on va te confier les bijoux de famille, l'histoire religieuse sacrée, ce qu'on a de plus précieux.
Et là, il y a une tromperie sur la marchandise.
Ou en tout cas, lui, il va les prendre sans aucun égard, les transformer, les bouleverser. Et une partie de l'opinion va trouver ça absolument extraordinaire, cette absence de révérence, cette manière de... Oui, de prendre à la fois à la lettre et de détourner le propos religieux, de s'en prendre à la langue. Et une autre partie sera très choquée parce que les bijoux de famille, ils sont foutus par terre, déchirés, détruits, et pas contents.
Alors, mais on en reparlera ensuite. Il se trouve qu'il y a aussi une fracture d'ordre biographique chez Caravage, dont tu parles abondamment dans un certain nombre de chapitres du livre, et qui sont une des thèses que tu avances pour eux. Mais avant d'en venir à ça, est-ce que tu pourrais... Donc, ce livre qui est donc le résultat, puisque c'est un ensemble d'émissions à France Culture qui ont été rassemblées ensuite dans le cadre d'un livre, ce livre porte le titre de « Perdre le jour, Caravage en cinq actes ». Donc, soit pour Caravage, cinq actes, mais « Perdre le jour ». Alors, il y a une espèce de c'est multiréférentiel, se perdre le jour. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes sur le sens de ce jour perdu ?
Mais très volontiers, Eric. Nous sommes là pour ça.
Je t'en prie.
Caravage, on le connaît surtout par le clair-obscur. L'obscurité, la nuit, l'ombre, le sombre. Donc tout ça s'oppose au jour. Donc il y a bien l'idée d'une nuit. Alors moi, j'essaie de montrer que ce n'est pas un nocturne au sens classique. Mais il y a bien l'idée de quelque chose d'opposé au jour. Alors, si on est opposé au jour, est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas le jour ? Est-ce qu'on l'a perdu ? Bon, il y a un sujet de lumière. Et je trouvais assez puissant et intriguant ce titre, parce que si on a été comme moi, et toi peut-être, élevé avant le bras, et donc dans la familiarité des textes sacrés, on se souvient de sa genèse. Et dans la genèse, Dieu crée la lumière.
Et vit que c'était bon.
Et vit qu'elle était bonne, et l'appela le jour. Donc le jour, c'est au-delà du phénomène physique de la lumière, la symbolisation pour dire le jour. Donc c'est la lumière plus quelque chose, plus la langue peut-être, ou plus la durée, puisque le jour c'est la chronologie. Et chez Caravage, au contraire, il y a une sorte de volonté de revenir à une lumière physique, brutale, un phénomène de propagation, sans la symbolique du jour. Et encore moins avec cette symbolique du jour qui renvoie à la durée, parce que Caravage, c'est l'instant brutal. Et donc, ça aurait pu s'appeler « Contre le jour ». J'ai aussi hésité, quand tu feras une thèse sur les titres de mes ouvrages, j'ai hésité avec « Contre le jour ». Mais « Contre », ne disait pas assez que probablement, pour Caravage, contrairement à ce que la jeunesse nous raconte, c'est pour ça qu'il aurait été maltraité à Grand-Lebrun, eh bien, le jour n'est pas un don dont on aurait raison de se réjouir. Et qu'en fait, le jour nous fait perdre quelque chose. Et perdre le jour laisse entrevoir la possibilité de retrouver ce que le jour nous a fait perdre.
Tu fais allusion. Alors, moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé.
Le texte de Freud.
C'est affreux, mais ce n'est pas le texte de Freud, c'est une note de bas de page. Et ça, je trouve ça très... Ça, c'est tout Olivier Dicker, ça, la note de bas de page, qui parfois est plus intéressante que ce texte envahissant. Alors, que dit cette note de bas de page à propos de cet enfant ? Alors, je trouve que c'est une citation bouleversante.
En oui, c'est boule... je suis d'accord avec toi. On plaisante là parce que nous sommes des êtres pudiques pour parler de nous. Comme disait Chateaubriand, dites du bien de vous, personne ne le fera à votre place. Et alors, effectivement, alors laissons de côté le thème très littéraire de savoir qu'est-ce que c'est que le principal et l'accessoire, si la note de bas de page n'est pas plus importante que le principal. Moi, je suis tellement persuadé que la note de bas de page est plus importante que le principal que je ne mets jamais de note de bas de page. Persuadé que le lecteur se dira « enfin il est court, enfin il est vrai, là il a raison ». Et la seule fois où j'ai essayé...
Il n'y a pas de note de bas
de
page.
Non, aucun de mes livres. Et quand j'ai publié un texte dans un colloque sur Caravage et Galilée, où la personne qui était chargée de la publication des articles était spécialiste de la mathématique chinoise au XVIe siècle. Elle, il y avait beaucoup de notes de bas de page, et elle me disait « Olivier, vos notes de bas de page ne sont pas assez nombreuses. » Voilà, donc chez Freud, en tout cas, on peut lire le texte, mais si on lit aussi les notes de bas de page, dans une note de bas de page, Freud raconte, rapporte ce récit d'un enfant qui a peur du noir, au moment de dormir, et l'adulte qu'il garde, qui n'est ni son père ni sa mère, l'adulte en a un peu assez de cet enfant qui tarde à dormir, et donc l'adulte, de force, éteint la lumière et va se mettre dans la pièce à côté. Et là, l'enfant s'adresse à l'adulte en lui disant « Mais est-ce que tu es là? Parle-moi. » Et l'adulte s'énerve un peu en disant « Mais écoute, tu avais peur du noir, maintenant tu es dans le noir, dors, à quoi pourrait bien te servir qu'on parle? Dors. » Et l'enfant répond « Il fait jour quand quelqu'un parle. » Voilà. Et donc cette idée d'un jour... qui la croyance en la langue, au récit, la croyance qu'on puisse sortir du malentendu, s'adresser à quelqu'un et que ce quelqu'un vous réponde. Toutes ces croyances, elles sont totalement absentes de chez Caravage, où au contraire, la langue va t'assigner à résidence, te meurtrir, te limiter, t'amputer. Et de toute façon, tant pis pour toi, parce que la langue est trahison d'une origine, d'une vérité première de rapport, peut-être de sensation, de perception, de juxtaposition. Dont elle est la trahison. On voit qu'il est assez peu, à partir de là, destiné à effectivement reprendre en main le récit religieux sans le martyriser. Et je trouvais effectivement intéressant de faire résonner cette idée du jour, de la lumière, avec aussi la langue.
Je crois que c'est le paradoxe aussi de ce livre, et je trouve que c'est bien que ça ait été d'abord une émission radio, qui par définition est un lieu où on ne voit pas d'image. C'est que ce livre sur les images est d'abord, comme l'était d'ailleurs le livre sur Chambre de Proust, est d'abord un livre sur la langue, sur une langue qui justement, à perdre le jour, y gagne probablement quelque chose sur le... Je relisais récemment un entretien d'un jeune, brillant et magnifique auteur des éditions de Minuit, qui est Tanguy Viel, qui disait à propos de la langue, de toute façon, alors reprenant Blanchot, reprenant toute une tradition qu'on connaît bien, reprenant cette idée que par définition, la langue ment. Et tout ton texte, je trouve, dans cette approche de Caravage, est un texte qui est à la recherche de cette limite du moment où la langue pourrait dire autre chose que le mensonge, et que ce texte sur Caravage et sur la peinture est aussi peut-être d'abord un texte sur la langue, la manière dont on parle des images, comme au fond le vin n'existe que par la manière dont on en parle. J'espère qu'il n'y a pas de producteurs, de viticulteurs ici, mais la question de la manière dont on parle du vin le crée d'une certaine manière.
Ben, en tout cas, c'est une protestation d'auteur... contre la peinture de Caravage, ça c'est certain, c'est-à-dire cette peinture qui ne cesse d'affirmer, de montrer en acte que la langue, les noms, le récit, l'échange, finalement nous trahissent. C'est pour tout auteur, bon, le défi qui est toute image à la langue, mais aussi un défi plus radical à la langue. La langue, c'est le jour, on l'a dit pour le petit enfant, donc qu'est-ce que nous perdons à parler? Alors, comme auteur, on est toujours confronté... comme locuteur, à l'idée que parfois l'indicible, l'ineffable serait plus précieux. Il y a un moment, pour un écrivain, c'est inacceptable. On est plutôt de l'autre côté, à dire que n'existe pleinement que ce qui est nommé, que ce qui est dit, que ce qui va avoir lieu dans la langue. Et un des thèmes du livre, c'est que Caravage, ça se répète énormément. Les mêmes thèmes reviennent, les mêmes figures, au-delà de, du hasard des commandes ou du succès d'un tableau qui entraîne un autre. Il y a vraiment un goût de la répétition très fort chez l'auteur. Se répète une chose qui arrive brutalement. Et j'essaie de suggérer que rien n'a lieu, parce que quand une chose a lieu, elle est derrière, révolue. Au contraire, chez Caravage, à la fois tout est perdu, mais le perdu est extrêmement présent dans l'image. C'est-à-dire, ça vient d'arriver, la perte, et du coup, elle n'a jamais lieu, et du coup, on la reprend. Et je pense que la langue, avec ses défauts, sa limite, son accent parfois, son manque de vocabulaire, ses constructions abîmées ou trop précieuses, son bavardage... la langue, c'est quand même notre lieu commun, au sens noble du lieu commun. C'est-à-dire, ça évite la guerre... ça donne une sépulture aux morts, ça peut donner de l'affection, ça peut donner du réconfort, ça donne du signe. Et contrairement à Caravage et à ce Baptiste qui vous regarde en disant « Mais qu'est-ce que tu viens faire avec ta langue, tes noms, qu'est-ce que tu me veux, hein, qu'est-ce que tu me veux imbécile, ou qu'est-ce que tu me veux bavard, qu'est-ce que tu me veux jobard ?» Eh ben, moi, je préfère être jobard, bavard, que découpeur de trous à deck en Bretagne actuellement. Voilà. Où là on n'a pas besoin des mots quand on découpe une famille, à la recherche de l'or en plus, passion française, de la rente, mais de l'éternité. Voilà. Et chez Caravage, il y a une prétention, moi je vais te donner l'éternité, une éternité d'au-delà de la mort, une éternité absolue, alors que la langue c'est la durée, c'est la chronologie, et donc c'est la mort du sujet, la langue. Et je crois qu'il a raison, mais qu'il a tort de ne pas aimer la langue pour ça. Moi j'aime la langue parce que c'est la mort du sujet, donc la réalité d'un sujet qui aura vécu. Caravage, c'est sûr, c'est pas la langue, c'est l'éternité, ça passe pas, les mots semblent faibles, mais il y a un petit côté, je découpe les trois decks quand même.
Alors, venons-en aux images, vous en avez une, l'éditeur Chichemont ou pas, enfin, n'a envoyé qu'une image, donc nous nous contenterons de celle-là.
10 livres, une image, c'était un bon ratio.
Voilà. C'est ce que... Alors, le livre est construit en cinq parties, chacune s'articule autour d'un tableau de Caravage et d'un verbe. Donc, si tu veux bien, on va les prendre dans l'ordre.
Vas-y.
Faire les choses chronologiquement.
Soyons simples.
Et bien entendu, tu commences par la fin. Déjà, ça complique la situation, puisque tu nous montres dans le premier chapitre intitulé « Finir », un tableau que vous ne verrez pas là, et que vous verrez bien entendu dans le livre que vous pourrez acheter, puisqu'il en reste 8. C'est un tableau, un des derniers tableaux peints par Caravage, ou le Caravage, qu'est-ce qu'on dit, le Caravage ou Caravage?
Écoute, les Italiens, ils aiment bien la Sophia Loren, oui. Donc le Caravage. En France, je pense qu'on peut dire Caravage.
Un des derniers tableaux qui est une des versions, d'ailleurs, du David tenant la tête de Goliath. Je ne vous montrerai pas parce que vous n'y verrez rien. Et c'est un tableau de 1610. 1610, c'est l'année où meurt Caravage. Mais c'est surtout l'année aussi où il tente pour la dernière fois de revenir à Rome. Et tu expliques, alors, enfin, tu vas nous expliquer d'abord pourquoi est-ce que tu mets ce finir en tête du livre et cet ultime ou presque ultime tableau de Caravage au début. Et surtout cette idée que ce tableau, ce qui quand même est lourd de sens, ce tableau est fait pour racheter une dette. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Quelle dette ?
Alors, d'abord, pourquoi finir? Pourquoi ce verbe? C'est pour l'opposer, comme le texte, là aussi, essaie d'en suivre le fil, à achever. Chez Caravage, il y a un côté fini qui s'interrompt brutalement. Il n'y a pas ce doux achèvement avec la belle résonance du geste dans le bel objet. Donc, il y a déjà ce côté un peu brutal. Commencer par la fin, c'est évidemment rappeler, ce que Caravage ne cesse de faire, que nos existences ne sont pas chronologiques, mais Proust le disait déjà. Et donc, quand tu es dans un rapport à une sorte de vérité première qui est devant et puis peut-être derrière, eh bien tu n'es pas dans la chronologie. Et ça, je voulais que pour le lecteur, cela soit déjà immédiat dans ce commencer par la fin. Je pense que Caravage finit aussi par le début, puisque tu vois la subtilité de cet enchaînement, puisque il meurt en peignant sa propre mort, puisque dans cette tête de Goliath est un autoportrait.
C'est un autoportrait, voilà. Oui.
Et en même temps, ce que j'essaie de suggérer dans ce texte, c'était là aussi ce que j'essayais de dire pour les décapitations de Daesh et une affaire comme celle des Troadec, à la fois ces corps démembrés qu'on nous présente, hein, ça c'est la technique de Daesh, sous les yeux comme la tête de Goliath, pour nous c'est insupportable, c'est-à-dire qu'on recule terrifié, et je pense que ce sont des présentations, comme la tête de Saint-Jean-Baptiste sur un plateau, pour lesquelles nous n'avons pas de représentation justement, on n'a pas de représentation de sa décapitation, de sa mort. Et donc ce thème de la présentation, on te met au premier plan quelque chose, c'est évidemment propre à la peinture, c'est une des facilités, une des facultés, une des forces de la peinture, de pouvoir jouer sur ce qui est devant, derrière, au sens de l'immédiat tout de suite là, et qui nous prend à la gorge. Donc présentation sans représentation, et Caravage, faisons-le commencer par la fin, parce qu'il finit par le début pour Caravage, le fait d'avoir la tête coupée, d'être réduit en morceaux, c'est peut-être revenir à un avant de l'unité qui était la trahison d'une vérité qui est le morceau. C'est-à-dire, si tu ne crois pas au récit, si tu ne crois pas à la langue, si tu ne crois pas à la chronologie, si tu ne crois pas aux histoires, probablement, c'est qu'il y a quelque chose dans notre vérité à nous, d'initial, d'originaire, avant la mise en mot, le morceau avant l'unité, qui est plus fort. Et de toute façon, quand on parle, quand on écrit, quand on compose, on feint une unité. C'est vrai qu'on met bout à bout des bribes d'œuvres qui, au moment de jouer le concert, au moment de publier le livre, tout ça paraît uni, coulé de soi, coulé de source, mais en fait, ce sont des fragments. Donc Caravage n'est pas simplement dans le fantasme. Il n'a pas tort de dire que le début, l'origine, c'est la bribe. Et il y a des gens qui adorent les fragments. Il y a des gens qui adorent les dessins plutôt que l'œuvre finie, qui adorent les esquisses. Non, il n'est pas le seul à penser ça. Donc il y a dans l'inachevé, le non-fini, pour parler comme ceux qui commentent la peinture de Léonard de Vinci, aussi une espèce de beauté, de poésie. Alors ce romantisme-là, lui, il ne l'a pas. Mais c'est juste que c'est quand même plus beau quand c'est pas fini, c'est plus beau quand c'est pas lié. Quand on regarde un tableau de Caravage, même les vêtements ne sont pas liés, ils sont attachés, mais on pourrait le défaire. Il n'y a pas d'unité intérieure, le vide entre les sujets, les corps sont posés. Et donc il y a ce refus, oui, du lien, du lié, qui est quand même très troublant, quand on pense au contraire voilà, qu'un lien est possible avec autrui et qu'une unité intérieure n'est pas une chimère. Et voilà tout ce que ce premier texte, pour seulement la somme de 16 euros et 5 oui. tableaux, c'est 12, incroyable. 12, donc 12. C'est un texte qui ne coûte pas plus de 3 euros. Oui, bien sûr, c'est un texte à 3 euros. Voilà tout ce que ça essaie de mettre alors, en scène.
Comme tout à l'heure, tu ne réponds pas complètement à la question, donc je la repose.
Oui.
Il se trouve que le neveu du pape...
Ah oui, c'était facile celui-ci.
Facile aussi, mais le Scipion Borghese. En fait... d'une certaine manière, vous savez qu'en 1606, donc Caravage a une altercation, un duel qui finit mal. Il tue son adversaire et donc il s'exile. Et il ne cesse, dans cet exil qui va durer 4 ans jusqu'à sa mort, de tenter de revenir. Et là, cette chose absolument stupéfiante, c'est que il se dit que par Borghese, il va pouvoir toucher le pape et donc avoir l'autorisation de revenir. Et il envoie des tableaux. Et là, il lui envoie David avec la tête de Goliath au bout. Je veux dire, c'est quand même un truc... enfin, on ne sait pas quelle a été la réaction de... si ce n'est que ça a marché, puisque...
Ça a très bien marché. Enfin, c'est fascinant des deux côtés, parce que, bon, on sait bien, sans être de grands historiens, que les papes du XVIIe siècle ne sont pas non plus, ni en termes de conformité religieuse ou légale, des parangons de vertu. Mais enfin, quand même, proposer à un assassin qui s'est enfui, sans rendre compte, devant les tribunaux de l'époque, de revenir gratis, si j'ose dire, contre deux tableaux, ben c'est la bourse ou la vie, c'est un truc de brigand. Donc déjà, ça montre que le neveu du pape... D'ailleurs, il faisait enfermer les collectionneurs de tableaux du Caravage pour les échanger leur liberté contre les tableaux. Donc c'est vraiment un grand affamé d'images, un amateur au sens le plus radical. Et ça, ça dit aussi quelque chose du rapport aux images qu'on peut avoir, un rapport d'avidité, de possession, et sans doute... d'incroyables passions. D'ailleurs, les tableaux de Caravage, je n'ai pas cité tous les exemples dans ce livre, qui décidément contient beaucoup de choses, mais pas tout. Il y a aussi un épisode que j'aime beaucoup d'un riche collectionneur qui fait peindre un Saint-Jean-Baptiste pour l'offrir à un couvent. Et puis au moment de l'offrir au couvent, il dit non, c'est trop beau, il le garde, il le fait copier. Voilà. Donc c'est quand même un peintre qui suscitait des passions. Et là, en effet, le cardinal Borghese échange quand même la grâce contre des tableaux. Et Caravage, loin de fait de faire acte de repentance, comme on dirait aujourd'hui, on aime bien ça, lui peint à la fois ce Baptiste que que vous avez sous les yeux,
oui, qui est, aussi
qui est un déni, de, voilà, qui est un des deux tableaux qu'il a pour payer son retour, qui est un déni aussi de sainteté, on y reviendra, oui, qui est vraiment un jeune homme trop visible et un saint trop absent. Et puis, en effet, un David égorgeant Goliath, en fait, on a la tête de Goliath, sachant que, je raconte ça aussi dans le livre, il y a deux manières de voir le tableau, et précisément, on n'arrive pas à déchiffrer, il y a une énigme dans ce tableau, on n'arrive pas très bien à lire ce que Caravage a gravé comme acronyme sur l'épée, parce qu'on peut le lire comme une sorte de repentance, c'est-à-dire, je te présente ma tête, voyez, j'ai été châtié, j'ai été puni, je suis un géant abattu, ou bien, et donc là, sur l'épée, certains arrivent à lire œuvre de Caravage, enfin Mako, peu importe, que c'est Caravage l'a fait, et d'autres, l'humilité à Oxy, la superbe. Donc soit repentance, soit affirmation de soi. Et on voit bien l'ambivalence de l'image, effectivement, se peindre, ça peut être par masochisme, repentance, se peindre mort, comme ça peut être, tiens, j'y suis encore. Et d'ailleurs, David a l'air plus triste dans le tableau que Goliath lui-même.
Voilà, c'est ce que je voulais ajouter, pour ne pas non plus tout dire, mais peut-être finir sur cette image, c'est que le David que montre Caravage, là, non seulement n'est pas triomphant, mais il a même l'air d'être très, très, très attristé de ce qu'il vient de faire.
Donc, député,
comme si, au fond, d'une certaine manière, c'est une hypothèse que tu avances, comme s'il y avait presque une jalousie de David en vis-à-vis de la tête de Goliath. Oui, d'une certaine manière, Goliath se multiplie en étant décapité.
Mais c'est de manière incroyablement cohérente avec tout ce qu'on a raconté jusqu'à présent, qui doit finir par être vrai. La lutte de David contre Goliath, c'est l'acte fondateur de la biographie chez David. La biographie de David commence du jour où il tue Goliath. C'est là que commence sa future gloire de roi, c'est son fait d'armes. Donc David est au début du biographique, qui est un drame pour le Caravage, le biographique, le récit. Donc il fait la tête. Goliath, c'est un peu la fin de sa biographie, sa décapitation. Donc lui, il fait la tête, mais il est plutôt soulagé, lavé du péché d'exister. David existe, donc aura l'ennui des suites. Caravage, il est devenu une sorte de chose. Il a l'objectivité de la pierre, en fait. Enfin, donc il est soulagé de l'existence et du biographique. Donc il y a une sorte de tension inhabituelle. Et les fléaux de la balance, finalement, quand c'est manié par Caravage, on est surpris parce que le triomphateur semble maussade et le vaincu plutôt soulagé, même si dans la laideur extrême de cette bouche ouverte, ce front sanglant, il y a aussi quelque chose quand même, peut-être d'une expiation, d'avoir malgré tout eu une biographie, de s'être pris pour un géant, etc. etc.
Alors, le livre, pour compliquer un peu la situation et jouer avec nous, avec le lecteur, commence évidemment au deuxième chapitre. Il commence par un nouveau chapitre qui s'appelle « Commencer » et qui est, d'un seul coup, là, un retour complètement aux origines, puisque là, tu montres le jeune garçon portant une corbeille de fruits qui date de 93, donc un des premiers tableaux romains, en tout cas, de Caravage, et qui fait partie de cette série de ces scènes de genre que extrêmement virtuoses que peint Caravage à cette époque, ce jeune homme avec cette corbeille de fruits, mais il y a aussi le fameux autre jeune homme qui se fait mordre par un lézard, je crois, et d'autres tableaux qui d'ailleurs, moi, tu ne le cites pas dans ton texte, mais moi je suis extraordinairement quand je vois ces images, je pense aux jeunes et faibles de Pasolini, qu'on voit qui passent à travers tous les films de Pasolini et qui je trouve, sont incarnés dans ces jeunes hommes dont on ne sait pas trop. Alors, en tout cas, qui ne cessent de montrer, en regardant le spectateur, quelque chose qui est de l'ordre du désir, de l'amour, enfin, en tout cas, tout à fait autre chose que ce qu'on a vu précédemment.
Alors, ça ne m'étonne pas qu'un homme aussi amoureux et amateur de femmes que toi rapproche le désir et l'amour, ce qui est quand même une chose relativement risquée. Je ne vais pas revenir là-dessus.
Restons
dignes. Donc, le rapprochement avec Pasolini. Alors, je suis allé présenter ce livre à la Villa Médicis au mois de janvier. Donc, j'étais évidemment à la fois...
Tu ne fais pas les choses à moitié.
Mola et Médicis, oui, enfin, ouais. Ça me paraît. Rome, Bordeaux, Paris. Un trajet d'honnête homme, en fait. Suivre des fleuves. Et évidemment, en Italie, ils en tiennent beaucoup pour le parallèle entre Caravage et Pasolini. Parce qu'ils ont à la fois en tête la mort au bord d'une plage, jeune, à Ostie pour Pasolini et à Porto Ercole, qui est pas loin de Rome, pour Caravage. Et ils en tiennent aussi, effectivement, pour cette présence des physiques, tu l'as rappelé. Pasolini joue au même jeu, mais Pasolini connaît très bien Caravage, il joue au même jeu de désymboliser les saints, les jeunes gens, en prenant vraiment le type d'à côté qui refuse de faire l'acteur. Donc, hein, c'est Oscar Wilde qui disait « Donnez-moi un masque et je vous raconterai la vérité ». Donc il y a ce jeu entre vérité et mensonge. Alors, moi, à titre personnel, je ne l'ai pas dit à la Médicis, parce que je suis quand même poli, mais je pense que Pasolini s'arrête en se contentant, lui, de vouloir donner corps à cette vulgate, d'après moi, qui existe sur Caravage, qui consiste à dire « Mais en fait, Caravage, il est extrêmement religieux, et ce qu'il veut nous montrer, c'est que les saints, Jésus, ils avaient les pieds sales, et c'est la vérité incarnée au quotidien, et c'est la foi... au niveau de la vie. Alors moi, je crois que c'est tout à fait le contraire. Je crois que les corps chez Caravage refusent le symbole et que Jésus est un emmerdeur. Voilà, qui a confondu des apparences avec des sujets. Chez Pasolini, au contraire, je crois qu'il y a cette dimension, vouloir montrer les saints des pauvres, vouloir montrer l'incarnation quotidienne, refuser l'allégorie, le joli. Voilà. Mais c'est sûr qu'il y a une vicinanza, une intimité, une proximité entre Pasolini et Caravage, qui est très émouvante. Moi, je pense plus à Proust et à Verlaine, le Verlaine de l'amour vainqueur.
Les fêtes galantes.
Voilà, l'amour opportun. Oui, parce qu'on a été formé à Grand-Lebrun, quand même, donc on est cultivé quand même. Hein,
avec le père Rabaté qui ne parlait
pas. Ah, mais ça, c'était le public, ça, le père Rabaté.
Ah oui,
c'était
non, pardon, à Montaigne. C'était Montaigne. Oui.
Et donc, voilà, moi je pense, mais ce que j'essaie de montrer à travers ce texte aussi, c'est que, bon, ces jeunes gens éphèbes, ravissants, un peu efféminés, ils ont nourri deux mythes sur Caravage, ou deux mythes au sens littéral, hein, je ne dis pas si c'est vrai ou c'est faux, mais ça a une fonction fondatrice de discours, c'est le mythe de l'homosexualité, mais en même temps, so what ? Proust est homosexuel, Verlaine aussi, Rimbaud aussi, est-ce que leur littérature est une littérature homosexuelle ? Et le mythe de, qui emmerde bien les amateurs de tragique, effectivement, du jeune homme qui peint ce qu'il a sous les yeux, le copain de la rue, et dont on a du mal ensuite à comprendre comment il va devenir ce grand peintre tragique, ce qui fait que les gens tentent de faire de la psychologie en disant il a dû se passer quelque chose, il a dû avoir un malheur, donc il était gai, lumineux, transparent au début, puis après il est sombre et méchant, donc on a dû lui marcher sur le pied dans la rue, enfin. Un truc comme ça. Alors moi, j'essaie de rétablir, au-delà de la coupure qui eut certainement séduit Caravage, s'il avait résonné en termes biographiques, entre cette œuvre 10 ans lumineux, 10 ans tragique et sombre, j'essaie de montrer quand même, de suggérer, de rétablir ce qu'il y a de profondément uni dans cette manière de regarder, de peser regarder, voir, objet, sujet, etc. Et donc commencer pour lui, enfin c'est Platon qui disait apprendre ses souvenirs, donc commencer c'est déjà finir pour Caravage. Enfin il commence aussi par la fin en fait, ou par le début, que sont les natures mortes, une espèce de jardin d'Éden, d'état primordial dont il ne sortira guère. Il commence par le milieu.
Et il ne s'appelle pas Caravage en plus.
Voilà.
À cette période, il est toujours Merisi.
Exactement.
Alors, Michelangelo Merisi.
Parce que, hélas, ça soutient plutôt ce texte Devenir, qui est le texte suivant. Oui, Caravage va connaître ce qu'il va peindre comme peintre religieux, c'est-à-dire le moment où Dieu, Jésus arrive et te disent « Mais tu n'es pas Lévi, tu es Matthieu, tu n'es pas Paul, le tortionnaire, le chasseur de chrétiens, tu es Paul le saint, Paul le martyr ». Donc Caravage va connaître dans sa vie de peintre, même s'il n'est pas le seul, cette transformation, cette transmutation, ce passage d'un nom ordinaire, le nom de ses parents, Mérisy, au nom de scènes, de théâtre, de grands peintres, Caravage, et c'est d'autant plus drôle, donc à une incarnation en peintre célèbre, qu'en plus Caravage c'est une appellation géographique, donc tu parlais des producteurs de vin, c'est une appellation d'origine contrôlée, donc il est de Caravage, c'est-à-dire la ville de Caravage, mais en même temps, substitué à cette origine de nom patronymique, il était de ses parents, Fermo et Lucina, il devient de Caravage, c'est-à-dire sa propre origine, et donc il supplante, en changeant de nom, l'origine, la dette due aux parents, devient une dette à la notoriété. Et les grands peintres, bon, Véronèse était de Vérone, etc. C'était aussi une sorte d'habitude de donner ce nom de scène qui permettait d'effacer la première origine biologique, patronymique, de filiation.
Alors, dans le troisième chapitre... Devenir, on va essayer d'aller parce qu'on va.
Ah oui, parce que tu sais que tu as utilisé 50 minutes pour 3 chapitres.
On a effectivement, alors cette chose étonnante qui est ce basculement dont tu viens de parler du peintre, qui d'ailleurs s'accompagne étonnamment d'un accroissement de la commande, comme si la commande, au fond, d'une certaine manière, révélait Caravage à soi-même, et notamment ce tableau qui est, comme tu dis, le Saint-Louis des Français, qui est un peu la chapelle Sixtine de Caravage, qui est le martyr de Saint-Mathieu, 1599, au moment où Caravage, au fond, est en pleine gloire à Rome, et qu'il publie, je trouve, un des tableaux les plus terribles de son travail de peintre. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces scènes de genre et ces scènes désormais religieuses, mais qui n'ont au fond de religieuses que le titre et des tableaux eux-mêmes, c'est-à-dire que si on enlevait le titre, on en parlera tout à l'heure peut-être pour le Saint-Jean-Baptiste, non de religieux que le titre. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce tableau qui le rend si singulier, si extraordinaire ?
Oui, ou comme tu le dis, qu'est-ce qui se passe dans cette chapelle où Caravage, alors encore Mérisy, est appelé grâce à ses protecteurs. Donc la plupart des bons peintres de Rome avaient envié cette commande d'un cardinal angevin, mort comme personne, mort comme tout le monde et qui voulait une tombe comme personne, me permettrais-je d'écrire, me citer dans mon livre. Donc tout le monde avait envie d'avoir cette commande prestigieuse dans l'église Saint-Louis des Français. Le chevalier d'Arpin, qui était un peintre à la mode, avait exécuté des fresques au plafond, dans un style un peu élégant et allégorique, mais les deux parties et d'autre de l'autel et sur l'autel manquaient les tableaux correspondant au testament voulu par le cardinal Cointrel. Et profitant probablement de ce que les exécuteurs testamentaires mettaient trop de temps, je vous passe les épisodes avec un sculpteur, à décorer la chapelle, preuve quand même que vraiment le catholicisme a besoin des images et de quelque chose de tangible quand même. Donc ces murs restés nus étaient vraiment scandaleux, ça ressemblait trop à la mort en fait, il manquait un peu d'image. Donc profitant de ce que les exécuteurs testamentaires sans doute ont trop tardé, mais aussi que la plupart des bons peintres ont accompagné le pape à Ferrare, le pape rattache Ferrare aux états pontificaux, et à l'époque il n'y a pas les caméras de télévision, donc on fait venir les peintres pour célébrer l'événement, et puis aussi pour apprécier les choses à piller. Et donc, dans l'absence de peintres, l'absence d'images dans la chapelle, l'absence de peintres dans la ville, les appuis de Caravage, notamment le cardinal Del Monte, qui habite le palais à 50 mètres de l'église Saint-Louis des Français, qui est maintenant le palais qui abrite le Sénat italien, c'est vous dire. Enfin, ça ressemble un peu à la situation parisienne. On profite pour imposer Caravage, qui n'est connu que pour des jeunes gens, des vases, des compotiers, des chemises écartées, dans ce site tant convoité de la peinture religieuse pour exécuter les deux grands tableaux. Donc il y a un pari aussi, sera-t-il capable ? Un pari audacieux. Alors que s'est-il passé dans cette chapelle où ce jeune homme lumineux entre à effectivement 29 ans pour ressortir sombre, tragique ? Il s'appelait Mérisy, il s'appelle Caravage, il a perdu la lumière, perdu le jour. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chapelle, ce chantier qui dure un an? Mais je pense qu'il va falloir acheter mon livre pour le savoir. Et c'est effectivement une transmutation, une transformation. Est-ce que c'est un abandon, une mue? Alors on peut dire c'est le vilain petit canard devenu cygne. Est-ce que c'est le commencement de la fin? Parce que la Caravage est obligée de raconter. Tu n'as pas relevé encore, mais tu allais le faire, que tous mes titres sont à l'infinitif comme des impératifs.
Non, je ne l'avais pas remarqué,
voilà.
Non.
Et ça, et j'essaie de par là aussi, oui. de donner une résonance à la manière dont la peinture s'adresse à nous, qui est un impératif. Et je pense que dans cette chapelle, il a entendu quelques raconte. Et ça ne lui a pas plu. Et donc il va briser l'image, déchirer le manteau de la peinture, inventer le clair-obscur. Mais là aussi, la technique du clair-obscur, c'est pour ça que Caravage n'aurait pas été caravagesque, disais-je. La technique, si elle ne renvoie qu'à elle-même, c'est pas très intéressant. Quand on regarde, moi je déteste les caravagesques, donc l'histoire de taverne, il fait sombre, on a envie d'apporter une chandelle ou d'allumer la lumière, il fait sombre, so what. La technique du Caravage de coupure, d'opposition dans le monde de la lumière, ça renvoie aussi à une vision du sujet, du manque d'unité, un choix de l'instant, un perdre le jour, pour me citer, qui fait, enfin en tout cas moi devant Caravage je suis pris parce que c'est autre chose qu'une simple opposition de lumière. On sent qu'il y a une opposition entre visible regard, figure infigurable, figuré défiguré, sujet-objet, et que la coupure du clair-obscur rend sensible comme une coupure du temps d'un immédiat. Mais sinon, il faut vraiment lire le livre pour le savoir. C'est une énigme, hein. C'est un peu la chambre jaune.
Absolument. Mais alors, elle est, cette sidération, cette énigme, elle est d'autant plus évidente que, comme tu le notes, dans l'arrière-plan du tableau, dans la quasi-obscurité du tableau, Caravage, une fois de plus, s'est peint lui-même. Et il y a cette espèce d'autoportrait, ce regard absolument ravagé de ce qu'il voit. Enfin, comme si Caravage, finalement, se dédoublait dans sa propre peinture pour constater l'effroi devant lequel il est.
Alors, comme il faut vraiment lire le livre, ravagé de ce qu'il voit, mais que voit-il ? Est-ce qu'il voit son tableau ? Est-ce qu'il voit la scène ? La scène, c'est-à-dire du martyr. Est-ce qu'il se voit voir ? Est-ce qu'il se voit y être ? Voilà. Et là, effectivement, moi, dans mes scènes primitives avec le Caravage, je t'ai cité le sacrifice d'Isaac, mais il y a aussi ce visage dans le tableau de Saint-Louis des Français. C'est le moment du triomphe. Il le sait qu'il a réussi son coup. Il a beaucoup tâtonné, il vient de faire une nouvelle version du tableau, il se peint dans cette nouvelle version. Ça y est, le clair-obscur s'installe, la déchirure de l'image, l'espèce d'explosion. Il ne peut pas ne pas savoir que son tableau est réussi. Et dans ce chef-d'œuvre, cette rupture avec ce qui se faisait à l'époque, cet emploi violent du clair-obscur, son triomphe dans cette chapelle lui n'était pas attendu, il fait la tête. Alors que chacun, nous, quand on imagine des moments de triomphe à venir, on se dit plutôt, bon, si j'ai cet examen, toi avant, c'était si j'ai cette femme, je serais quand même un homme radieux. Alors, il nous est arrivé, le triomphe advenu, de ne pas être si heureux que cela, mais pas au point de faire la tête, surtout avec une très belle femme à côté de nous, ce qui eût été à la fois mufle, discourtois, et peu de nature à nous valoir une réputation aimable. Mais Caravage, c'est au-delà, c'est pas la déception, c'est il est furieux. Donc, quelle est cette rage, votre assonance en français, furieux, avec ce nom de Caravage, tu vois, rage, ravage. Voilà.
Je voudrais que tu dises quelques mots de la mort de la Vierge, qui pour moi est un tableau absolument sublimissime, dont je crois une de tes amies siciliennes, si je t'ai bien lu, disait qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle le voyait.
Oui, alors c'est vrai que moi j'ai promené longtemps ce projet d'écrire sur Caravage, et il m'arrivait quand j'étais en Sicile, bien sûr, d'aller voir les Caravages qui sont à la fois à Messine, qui sont très très beaux, très sombres, où la Vierge se transforme en une espèce de lac de couleurs, parce que là aussi, une des thèses que j'essaie d'esquisser dans ce livre, c'est que Caravage, tu avais raison de bien vouloir le situer, est dans un siècle de peinture figurative. Mais fondamentalement, pour moi, Caravage, c'est un peintre abstrait. S'il avait été au XXe siècle, il aurait peint des rapports de lumière, de surface, des cônes, des cylindres, dirait Cézanne, et il serait complètement débarrassé de la figure. Mais du coup, ça aurait été un abstrait parmi d'autres. Ce qui est génial, ce qui fait que c'est un peintre génial et pour moi indépassable, c'est une mentalité d'abstrait à l'époque où tu ne peux manier que les figures. Donc il va faire mal à la figure, parce que la figure lui fait mal. Mais je n'ai pas répondu à ta question. Donc il y a ces deux tableaux...
Et on n'a pas le temps d'aller... Donc il faut que tu répondes vite. Quelques mots sur la Vierge.
Et donc il y a aussi à Syracuse la mort de Lucie, qui est reproduite dans le chapitre sur la Vierge. Et donc je trimballais ce projet d'écrire sur Caravage, et auprès de mes amis siciliens... j'évoquais souvent ce projet, suscitant en général l'indifférence, ce qui est normal, la consternation pour les amateurs, et sauf auprès de cette femme, et les femmes ont parfois cette sorte de compassion pour nos manies, tu sais ça, toi qui les as beaucoup fréquentées et continues, et elle me dit, mais moi, je ne comprends pas comment tu peux écrire sur Caravage, moi, quand je regarde Caravage, et en particulier, puisque tu es parisien... Moi, je pleure. Et ça nous permet de habilement renouer avec le propos du début. C'est qu'est-ce que la langue peut opposer à quelqu'un qui te dit « moi, je pleure », l'ineffable, l'indicible, les larmes. Et moi, mon texte, essaie de sauver ces larmes, dont finalement le rappel délicat par Mola.
De ces petites...
Voilà, une larme peut être immense et contenir beaucoup d'âmes. Et ce que j'essaie de dire dans le texte sur la mort de la Vierge, c'est qu'en effet, peut-être que Caravage aimerait bien qu'on ne fasse que pleurer devant ses tableaux, mais je ne pense pas que lui pleurera la mort, la disparition, le départ. Et les morts, mon avis, cette mort de la Vierge, ça pourrait s'appeler les noces de la Vierge, les vraies épousailles, épousailles avec le cadavre, épousailles avec la faim, épousailles avec la mort, épousailles avec la pure apparence, épousailles avec l'épuisement. Et donc c'est plutôt une sorte de Oui, de joie païenne, violente et terrible, indépendamment de tout ce qui s'attache au tableau, la rumeur sur le modèle qui est oui, une prostituée,
ça,
qui en fait un tableau terrible.
On lira pour ça.
Oui.
C'est un tableau terrible. Et c'est un tableau facile à voir puisqu'il est au Louvre et que peu de gens, finalement, tu le laisses entendre, s'y intéressent et qu'on peut voir ce tableau assez tranquillement.
Ah oui. On peut même amener ce livre qui tient dans une poche de manteau.
Et lire
le texte. Et certains m'ont dit que le texte résistait. Certains l'ont fait. Et m'ont dit que le texte résistait face à l'image, qui est peut-être un très beau compliment au texte, pas à l'auteur, puisque après le texte se détache.
Merci.
Merci à toi, Eric.